France Culture.
Science en son, Céline Lozen, Guillaume Baldi. Épisode 3, médecine, les ondes qui soignent. Nos corps sont sensibles au son. Les ondes sonores apaisent, stimulent ou soignent. Ce potentiel sonore à certaines gammes de fréquences est connu depuis l'aube du XXe siècle et à l'origine dans un contexte militaire, comme l'indique Cyril Lafont, directeur de recherche à l'INSERM.
C'est naturellement, souvent, hein, malheureusement, c'est les guerres qui font qu'il y a des certains progrès dans le domaine de la santé. Mais oui, la première application des ultrasons, c'était la détection des bateaux, hein, c'était les sonars. Mais en fait, ça revient à faire la même chose en échographie pour le diagnostic. Dans le domaine de l'imagerie, c'est quelque chose qui a été proposé dans les années 20 ou les années 30. Il y a eu quelques idées qui ont émergé en thérapie un petit peu plus tard, des premiers essais dans les années 50. Mais très rapidement, les applications dans le domaine de l'imagerie ont explosé avec l'échographie. Et c'est plus récemment, dans les années 80-90, qu'on s'est davantage intéressé à la thérapie.
Depuis, nombre d'innovations thérapeutiques basées sur le son se déploient pour répondre aux défis sanitaires d'aujourd'hui. De l'oncologie aux neurosciences, des équipes réunissent médecins, chercheurs, ingénieurs et artistes pour guérir, apaiser ou retrouver des facultés. C'est le cas de la chercheuse Iseline Per qui aide des patients à retrouver leur motricité après un trauma crânien. Au service de rééducation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, elle teste un dispositif de sonification qui stimule le mouvement.
Le principe est de convertir en temps réel, donc en instantané, des paramètres du mouvement en paramètres sonores. Et donc on va, par exemple, prendre des paramètres tels que la trajectoire ou la vitesse d'un mouvement et les traduire en retour sonore comme la hauteur, donc une hauteur qui va varier, un rythme qui peut varier. Et donc, à l'origine, ces types de dispositifs étaient utilisés notamment par des danseurs associés à des musiciens. Et puis, est rapidement venue l'idée de l'utiliser aussi pour la santé et notamment la rééducation. Là, on arrive devant la salle de marche, qui est une salle qui est à la fois utilisée pour les expérimentations et par les rééducateurs, notamment les kinés.
À quel patient on s'adresse avec ces méthodes de sonification pour recouvrer le mouvement des patients qui ont perdu l'usage de membres ou qui ont souffert de traumas cérébraux ?
Alors oui, dans mon cas, j'ai travaillé avec des patients qui étaient avec des lésions cérébrales acquises, donc principalement post-AVC, donc accidents vasculaires cérébraux ou post-trauma crânien. C'est vrai que les lésions cérébrales peuvent être aussi des tumeurs cérébrales. Donc ça amène quand même une grande diversité au niveau des profils de patients. Mais donc ce qu'on ciblait principalement, nous, c'était la rééducation des membres supérieurs. Sachant que donc en post-AVC ou post-trauma crânien, il y a souvent donc une perte sensorielle et une perte de motricité. Et donc c'est ce qu'on ciblait, entre autres, dans le cadre de la création du dispositif de sonification. On appelle COMO rééducation. Donc c'est une petite boîte. Alors dimensions, je les ai plus du tout en tête, mais c'est une vingtaine de centimètres de longueur. et une dizaine de centimètres de hauteur avec un petit écran. Donc un écran tactile qui va permettre de visualiser en fait des étapes pour réaliser une séance de sonification. Sur le dessus, on a deux petits capteurs dans des coques colorées pour les distinguer. Et donc ces capteurs vont me permettre d'être positionnés sur des segments de membres, donc typiquement un bras, un avant-bras, une jambe, voilà. Et vont assurer la captation des mouvements. Donc on récupère les paramètres de mouvement grâce à ça. Et ensuite, ce qui est caché dans la petite boîte, c'est tout ce qui va permettre la conversion justement des paramètres de mouvement en paramètres sonores. Et puis on a donc deux haut-parleurs qu'on peut apercevoir à travers les petites fentes et qui vont permettre la restitution sonore.
Donc voilà. Il y a un retour en temps réel du mouvement via un son qui est émis à travers les enceintes.
C'est exactement ça. Et ce retour, en fait, il dépend directement des mouvements qui sont réalisés.
Et c'est ça qui joue sur la motivation du patient en créant des mélodies ou des paysages sonores ?
Oui, complètement. En fait, l'un des objectifs, en dehors de travailler sur les aspects moteurs, était vraiment de travailler sur les aspects motivationnels. Donc la mise en mouvement, l'initiation du mouvement qui... en fait, permettait de se décentrer, de répéter un mouvement, un geste qui peut-être va être fonctionnel. Donc, par exemple, étendre le bras pour aller chercher une bouteille d'eau. Là, c'était au-delà d'aller saisir un objet, plutôt réaliser une séquence sonore qui permettait donc de transformer un peu son rapport aussi à son corps, qui devient un instrument de musique.
Faire une démo maintenant dans l'autre espace.
Avec plaisir.
Ça se passe où du coup ?
On va commencer à placer les capteurs. Donc, les place sur votre bras, ouais. Ça va ?
Allez-y.
Ok. Et alors, on va allumer les capteurs. Et on va pouvoir vérifier qu'ils sont bien allumés. Voilà, on a des voyants verts qui apparaissent. Et je vais vous demander d'évaluer votre humeur à cet instant entre 0 et 10.
Oh, 8.
8. Et est-ce que vous pourriez donner un qualificatif parmi triste, agacé, inquiet, neutre, serein ou joyeux ? C'est pas exhaustif.
Entre serein et joyeux, je dirais.
Entre serein et joyeux, entre les deux. Et est-ce que vous pourriez évaluer votre fatigue entre 0 et 10, 0 aucune fatigue et 10 très grande fatigue ?
3.
3. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir une position de repos, on va dire. Ça peut être par exemple comme ça.
Ok, la main sur le ventre.
Voilà, la main sur le ventre, comme ça. On enregistre ça. Et si vous voulez arrêter le son, il suffira de prendre cette position. Donc là, on va calibrer la zone 1.
Haut à gauche.
En haut à gauche. Donc là, vous avez un animal nocturne. Ne bougez pas.
C'est normal que ça pulse dans mon...
Alors, vous allez pouvoir aller en deuxième position.
En haut à droite.
En haut à droite, et donc vous avez entendu la foudre. Ensuite, on va aller en bas à droite. Et donc, en bas à droite, vous allez avoir le loup.
Équipé de capteurs, je déploie mon bras droit le plus précisément possible vers les coins de l'espace où les sons ont été encodés. Le moindre écart en hauteur de bras ou rotation de poignet module l'intensité du son. Je comprends alors comment jouer sur l'émotion peut être un bon levier thérapeutique.
Chouette. Tonnerre. Loup. Piver.
Parfait. Et donc maintenant, on va écouter la séquence à mémoriser. Ok ? Sans stress, il n'y a pas d'enjeu. Ça fait l'objet de nos réflexions parce que donc là, vous avez vu sur l'écran, on peut avoir un retour aussi avec des... vous pouvez voir en fait quand vous vous déplacez dans les différentes zones, voilà, qu'elles s'allument quelque part. Et donc l'objectif est de travailler soit uniquement en visuel, soit uniquement en auditif, soit en visuel et en auditif. Et on cherche en fait à évaluer si le fait d'avoir un retour sonore va permettre de se défocaliser de la tâche motrice. Et là en l'occurrence, si le fait d'avoir à mémoriser justement la séquence, détourne de la tâche motrice et permet que finalement le geste soit réalisé de manière plus fluide que quand on est focalisé sur réaliser le geste répété. Plus vers l'intérieur, je pense, de votre bras.
Ah.
Et
voilà. C'est pas si évident. Hein.
Ce n'est
pas
si évident.
Aussi le stress de bien faire. Mais une fois qu'on a chopé le truc.
Oui. Avec un peu d'entraînement, une fois qu'on a compris la consigne,
qu'on
est habitué aux différents symboles, on va dire, sonores, ça devient beaucoup plus facile. Et finalement, on ne s'arrête plus après.
Le son influe sur les émotions pour aider au soin. Il peut aussi moduler l'anxiété et soulager la dépression, qui est le trouble mental le plus fréquent au monde. Parmi les traitements non médicamenteux à l'essai, l'usage des ultrasons pourrait apporter un grand bénéfice. À Paris Campus Santé, le directeur de recherche Jean-François Aubry travaille sur une technologie pour des patients dépressifs. Une lentille acoustique qui cible dans le cerveau la zone à l'origine du trouble. Une méthode non-invasive et sans effet secondaire.
Alors, il faut savoir que la dépression est le trouble psychiatrique le plus fréquent au monde. Et on estime qu'une personne sur cinq soit a souffert, soit souffrira de dépression au cours de sa vie. Et environ un tiers de ces patients ne sont pas améliorés avec des médicaments antidépresseurs. Et on se retrouve avec 400 000 patients chaque année en France qui sont dépressifs et résistants aux médicaments. Pour ces patients, il faut trouver des techniques alternatives aux médicaments et notamment des techniques de neurostimulation, pour stimuler les zones cérébrales qui sont en cause dans la dépression. Nous, de notre côté, on a développé une approche très innovante à base d'ultrasons. La méthode de stimulation cérébrale la plus connue, c'est la stimulation cérébrale profonde, où on insère une électrode dans le cerveau, une sorte de pacemaker cérébral qui vient stimuler le cerveau en permanence, c'est une technique qui est très invasive. Et on a proposé d'utiliser les ultrasons pour, à distance, venir effectuer une sorte de massage par ultrasons des neurones pour moduler l'activité cérébrale. Et donc c'est ce qui permet, en concentrant les ultrasons en profondeur dans le cerveau, de venir modifier l'activité cérébrale avec des ondes ultrasonores de façon non-invasive et de façon réversible. Si on a une stimulation qui est transitoire, et on va stimuler les tissus de façon répétée dans le temps pour avoir un effet qui s'installe dans la durée. Il a été montré chez les patients dépressifs qu'il y avait une suractivité d'une zone cérébrale profonde bien précise qui s'appelle la région singulaire subcaleuse. Et donc, notre idée, ça a été d'utiliser les ultrasons pour venir diminuer l'activité dans cette zone. On a la chance que les neurones inhibiteurs soient plus sensibles aux ultrasons que les neurones excitateurs. Et comme on va déclencher des potentiels d'action sur des neurones qui sont inhibiteurs, l'action globale va être d'inhiber la région, donc de calmer cette région, de diminuer son activité, et donc d'avoir un effet potentiel bénéfique sur la dépression. Le cerveau, en fait, est protégé par une barrière très efficace qui est le crâne, qui est là en fait pour protéger le cerveau des chocs mécaniques. Or, les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui se propagent et donc le crâne est là pour les empêcher d'arriver jusqu'au cerveau. Et donc le crâne a été pendant très longtemps une barrière infranchissable pour les ultrasons, notamment pour faire des imageries échographiques par exemple du cerveau. Et à la fin des années 90, on a remarqué que une petite portion de l'énergie ultrasonore arrivait à passer à travers le crâne. Et malheureusement, cette partie des ultrasons qui est transmise à travers le crâne est en fait déviée par le crâne, elle est déformée. Et donc si on veut espérer pouvoir avoir un effet ciblé dans le cerveau, il va falloir corriger l'effet du crâne sur les ultrasons, donc corriger les déformations qui sont induites par la présence de la boîte crânienne. on a réussi à trouver une approche sans aucun compromis sur la précision de la refocalisation. Et c'est ce que l'on appelle des lentilles acoustiques. Ce sont des matériaux sur lesquels on ajuste l'épaisseur de matériaux à traverser pour accélérer plus ou moins les ultrasons et pour permettre, comme on le faisait avec des centaines d'éléments émetteurs d'ultrasons, de corriger l'effet du crâne et de l'anticiper.
Oui, c'est un dispositif en fait qui est vraiment personnalisé au profil du patient.
Tout à fait. Et c'est une approche entièrement personnalisée. On a besoin d'informations sur le crâne spécifique du patient. Et heureusement, grâce aux techniques d'imagerie, notamment le scanner X, on peut avoir l'information sur non seulement l'épaisseur du crâne, mais également la densité du crâne pour chaque patient. Et on utilise ces données pour créer une sorte de jumeau numérique du patient. Et dans l'ordinateur, on simule l'effet du crâne sur les ultrasons, on l'anticipe et on le corrige ensuite grâce à une lentille. Et donc l'épaisseur justement de cette lentille est ajustée pour contrebalancer exactement l'effet du crâne pour un patient donné. En fait, on vérifie dans l'ordinateur, on simule la propagation des ondes à travers le crâne du patient considéré, in silico dans la machine, dans l'ordinateur, sur son jumeau numérique, et on vérifie qu'effectivement la mise en forme des ultrasons permet bien de reconcentrer l'énergie ultrasonore sur cette zone cérébrale profonde qui est la région singulaire subcaleuse. Le protocole que nous avions mis en œuvre concernait des patients dépressifs qui étaient résistants aux médicaments, donc pour lesquels il fallait trouver un nouveau traitement. Les ultrasons étaient répétées en fait sur 5 jours, 5 fois par jour, donc en tout 25 traitements ultrasonores sur la semaine, de façon à diminuer l'activité dans la zone ciblée au fur et à mesure au cours du temps et d'encourager en fait le cerveau à avoir une plasticité qui se mette en œuvre et qui soutienne en fait cette approche et qui permette de prolonger l'effet des ultrasons un petit peu après les tirs ultrasonores. Donc c'était répété typiquement toutes les heures, 5 fois par jour pendant 5 jours. Et la durée des émissions était de 5 minutes. Donc on avait 5 minutes, typiquement 10 minutes le temps d'installer le patient sur la chaise, de positionner le transducteur ultrasonore pour bien cibler toujours cette zone profonde impliquée dans la dépression. Et puis ensuite 5 minutes de traitement, et ensuite le patient revenait une heure plus tard.
C'est bon parce que vous avez un crâne sec sur votre bureau.
Oui, mais celui-là est en plastique.
Celui-là est en plastique.
Ouais, celui-là c'est un cadeau en fait. Mais voilà, donc c'était juste ça permet de...
Il est à l'échelle.
Enfin, il est à l'échelle. D'ailleurs, la cible est juste là.
Ah oui, alors après en profond dans le cerveau.
Ouais.
Ce qui est drôle, c'est qu'on peut voir vos petits gribouillis de physicien.
Alors, il y a beaucoup de choses ici. Là, ici, c'est effectivement le positionnement de la lentille schématisée par rapport au crâne. Et on a ici toutes les questions qu'on se pose sur les dimensions à donner au transducteur ultrasonore pour concentrer au mieux les ultrasons, parce qu'on veut à la fois être très précis. Plus le transducteur a un diamètre important, plus on sera précis, mais on veut aussi qu'il soit facile à manipuler, et donc on veut pas non plus qu'il ait une dimension trop grosse. Peut-être, si vous voulez un autre exemple ici aussi, là vous avez les patterns ultrasonores. Donc on n'envoie pas des ultrasons en continu, comme on pourrait le faire pour faire par exemple de l'ablation thermique. On envoie des ultrasons pulsés, donc des trains d'ultrasons de très faible durée. Et ici, en fait, on a calculé les espacements entre les durées des trains d'ultrasons pour que le traitement soit à la fois efficace et complètement sûr, sans effet secondaire sur les tissus. Et on va aller vers les salles d'expérimentation. On a la version finale, qui est le dispositif qui utilise la lentille acoustique. Il s'est connecté à un transducteur beaucoup plus petit et manipulable à la main, où je peux le manipuler à la main directement.
C'est ce qui vient se passer, au sommet du crâne.
C'est ce qui vient se passer sur le patient. Donc le patient est maintenu ici en place sur cette chaise et on positionne le transducteur avec un bras articulé. On bloque le bras articulé. Maintenant, je le lâche et il ne bouge plus. Et on effectuerait le traitement comme ceci pendant 5 minutes. Le but, c'est que après traverser de la lentille et du crâne, tous les faisceaux ultrasonores arrivent en même temps au point visé. Et sur leur trajet, ils auraient été d'abord ralentis juste ce qu'il faut par la lentille, et ensuite on sait comment ils vont être accélérés à travers le crâne, et le tour est joué.
Voilà. On peut prendre celle-là par exemple, donc elles sont dans des boîtes pour les livraisons à l'hôpital. Donc c'est en fait un matériau qui a une épaisseur variable, et on a calculé l'épaisseur à donner en chaque point pour compenser l'effet du crâne. C'est en silicone dentaire. C'est le même type de matériau qu'on utilise pour venir prendre les empreintes dentaires. Alors pour nous, le vrai intérêt, c'est que la vitesse du son dans ce matériau rose est en fait beaucoup plus faible que la vitesse du son dans l'eau. Ce qui veut dire que on va pouvoir jouer sur l'épaisseur de ce matériau pour compenser l'effet du crâne. En fait, dans le crâne, c'est l'inverse. La vitesse du son dans le crâne est supérieure à la vitesse dans l'eau. Donc le crâne accélère les ultrasons et nous, avec la lentille, on va venir les décélérer. Il y a des échelles de dépression qui sont codifiées et qui sont les mêmes partout dans le monde, qui sont simplement traduites dans les différentes langues et qui permettent vraiment d'apprécier de façon quantitative la sévérité d'une dépression. Et donc on réalisait ce score de dépression tous les jours, pendant les 5 jours de traitement, et puis ensuite toutes les semaines pour suivre les patients. Et on a observé, même si c'est un résultat très préliminaire, qu'en moyenne, sur les 5 patients, à l'issue des 5 jours de traitement, on avait une diminution de 60% de ce score de dépression. Donc une amélioration sensible de l'état dépressif. Maintenant, il va falloir mener, pour confirmer ces résultats, des études plus larges, avec un nombre plus important de patients impliqués, et puis surtout, comparer l'effet des ultrasons par rapport à ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire à l'absence de traitement, pour véritablement montrer l'avantage des ultrasons sur la dépression.
Ces lentilles acoustiques vont donc être testées sur plus de patients, notamment sous groupe placebo, afin de prouver leur véritable efficacité. Une technologie qui pourrait faire l'objet d'un brevet prochainement. Comme souvent en biomédecine, la recherche et la clinique doivent s'allier à l'industrie pour créer des innovations. C'est le cas du laboratoire des applications thérapeutiques des ultrasons à Lyon, qui met au point une technologie basée sur des ultrasons hautement focalisés pour éradiquer des tumeurs.
Alors, je m'appelle David Mello de Lima, je suis directeur de recherche au LAPTO et donc je suis chercheur ici depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Initialement, moi j'ai travaillé sur le traitement des métastases hépatiques et plus récemment sur le traitement du cancer du pancréas. Donc c'est une méthode qu'on développe en partenariat avec un partenaire industriel qui est EDAP-TMS, qui est un partenaire lyonnais, et avec le centre Lyon-Bérard. Donc en fait, ces projets partent de besoins médicaux qui sont identifiés par les médecins, qui nous expliquent les limites des traitements actuels. Et nous, au laboratoire, on essaye de développer de nouveaux instruments basés sur les ultrasons qui vont permettre de répondre à cette limite. Donc on conçoit complètement l'instrument ici, on le teste, on le développe, et ensuite on le porte auprès des patients via des essais cliniques.
Est-ce que vous pourriez décrire plus précisément cet instrument, ses caractéristiques et comment on le place vraiment sur le patient ?
Alors nous, on a travaillé sur des instruments chirurgicaux, donc ils doivent faire face à des contraintes d'encombrement, puisqu'ils vont être placés à l'intérieur du patient lors de la thérapie. Ça fait aussi face à des difficultés de stérilité, il faut que l'instrument soit stérilisable pour son utilisation. Et on travaille sur ces caractéristiques-là et aussi sur les caractéristiques de l'organe pour prendre en compte les contraintes anatomiques. Le foie, c'est pas pareil que le pancréas, de façon à pouvoir le placer au contact de l'organe et de la tumeur. Donc c'est un mélange de contraintes cliniques, médicales, tous les patients ne sont pas les mêmes non plus, et puis de contraintes technologiques, parce qu'il y a une électronique embarquée qui est extrêmement importante. Il y a des systèmes hydrauliques aussi qui sont implantés dans le dispositif. Donc c'est des objets technologiques assez poussés, en tout cas pour la science d'aujourd'hui, quoi. Donc les traitements qui sont réalisés aujourd'hui sont des traitements qui sont dits patients spécifiques, c'est-à-dire que c'est de la médecine personnalisée. On va s'adapter à chaque personne parce que chaque patient, en réalité, a son histoire, sa tumeur, son cancer. Et même si on parle de cancer du pancréas, par exemple, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose parce que chaque patient a ses spécificités. Les traitements préalables qu'il a déjà eus au moment où nous, on intervient, son espérance de survie, etc., etc. Alors pour s'adapter à ça, nos sondes, elles possèdent plusieurs émetteurs d'ultrasons. Et en jouant sur les phases et les amplitudes des signaux qui sont appliqués sur chacun de ces éléments, on peut changer la position et la taille du volume qui va être détruit pour s'adapter à la taille et au volume de la tumeur, de façon à traiter que le volume tumoral plus une petite marge de sécurité pour être sûr d'avoir une efficacité carcinologique. Ensuite, on a des moyens d'imagerie, c'est-à-dire qu'en plus de tous les éléments que je vous ai dit, on a des sondes d'imagerie qui sont intégrées dans la sonde de traitement, de façon à ce que le praticien puisse voir ce qu'il va traiter. Alors c'est un objet de haute technologie, mais qu'on essaye de rendre très simple d'utilisation pour le médecin, qui n'est pas un spécialiste évidemment de tout ça. Et au final, pour lui, ça se résume à avoir une image avec une cible qui représente la zone qui va être traitée. Et son challenge à lui, c'est de positionner cette sonde sur le patient de façon à ce que la cible englobe la tumeur. Et un autre aspect extrêmement fort du projet, c'est que ce traitement va être fait en une seule insonification. C'est le mot qu'on utilise pour dire qu'on envoie les ultrasons dans le patient. Et cette insonification est courte, ça dure 6 minutes. Et en 6 minutes, la tumeur est complètement détruite, et définitivement détruite surtout. Les traitements sont faits à visée curative. C'est-à-dire que si on fait ce traitement, c'est pour essayer de, effectivement, guérir le patient. Ensuite, pour dire qu'un patient est guéri quand on parle de cancer, c'est des études qui sont très longues. Alors on parle de survie à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et quand on parle de cancer du pancréas, il faut savoir que c'est une maladie qui est extrêmement agressive, avec aujourd'hui une espérance de survie qui est extrêmement courte. La médiane de survie est à 1 an seulement pour les patients. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la mortalité est quasiment égale à l'incidence de la maladie. Donc aujourd'hui, on a un tout petit recul. Sur le cancer du pancréas, on a traité 2 patients qui vont très bien aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà pour nous une énorme satisfaction et pour les patients encore plus. Et effectivement, les examens que l'on fait au cours du temps pour suivre l'évolution du traitement montrent une destruction tumorale complète sur ces 2 patients.
Donc on arrive à l'Institut de chirurgie expérimentale qui est sur le site du Centre Léon Bérard, donc le centre anticancéreux à Lyon, où le laboratoire dispose d'une plateforme chirurgicale où on peut tester les dispositifs qui sont développés au laboratoire. On est obligé d'équiper pour rentrer dans le bloc par contre.
Cyril Lafont, directeur du laboratoire, nous amène au bloc chirurgical pour nous montrer la machine Focal One.
Merci. Donc voilà, vous entrez dans un bloc chirurgical qui est complètement conventionnel. Les blocs pour les patients dans le bâtiment d'à côté sont absolument identiques. Et c'est là qu'on a notre dispositif Focal One qui est installé. Donc Focal One, c'est une machine qui a été fabriquée en collaboration entre le laboratoire, une société basée juste à côté, à Vaux-en-Velin, qui s'appelle EDAP-TMS, et les Hospices Civils de Lyon. Donc la machine en clinique est utilisée de l'autre côté de la route à l'hôpital Édouard Herriot. Donc là on a Thomas Payen qui est un chercheur du laboratoire qui nous a préparé une petite démonstration pour en expliquer le fonctionnement.
Alors je remplis la cuve d'eau parce que l'eau permet de la conduction des ultrasons. Et on va pouvoir faire une lésion dans un bout de foie de génisse qui nous sert de modèle en fait de la prostate. Cette machine, donc, elle est commercialisée depuis 2013 pour le traitement du cancer de la prostate. Elle a réalisé à peu près plus de 30 000 traitements à ce jour. dans tous les pays du monde. Et elle est également à l'étude pour le traitement d'endométriose, donc qui touche 10% des femmes. Et on a réalisé deux études cliniques qui nous ont permis d'avoir le marquage CE pour l'endométriose. Donc dans un avenir proche, on espère pouvoir aussi l'utiliser pour cette application-là. Alors le Focal One se présente un peu comme un gros bureau qui contient en fait différents modules. Donc il y a un ampli électrique qui nous permet de générer la puissance qui nous permettra de faire le traitement par ultrason. On a également un bras robotisé qui permettra de bouger automatiquement la sonde pour traiter le cancer de la prostate suivant la planification du médecin. On a un échographe qui nous permettra de voir en temps réel ce qui se passe au niveau de la prostate. Donc deux écrans qui nous permettent justement de visualiser ces images et aussi de voir des images IRM qu'on peut charger, qui ont été donc acquises avant le traitement et qui nous permettent en fait de voir où le traitement doit être réalisé.
En fait, on ne voit pas le cancer de la prostate sur les ultrasons, sur les images échographiques. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des IRM qui sont faites avant le traitement. Et donc, du coup, il y a un logiciel de fusion des images échographiques qui sont faites pendant le traitement avec les IRM qui sont faites avant le traitement, de façon à importer la position du cancer sur les images échographiques et donc aider l'urologue dans sa planification du traitement.
Donc là, je vais aller chercher après le bout de foie qu'on va utiliser comme modèle aujourd'hui. L'échantillon est positionné dans un porte-échantillon qui est lui-même rempli d'eau dégazée, parce que donc, toujours pareil, l'air, le gaz, c'est quelque chose qui nous embête au niveau des ultrasons. Donc le foie est mis dedans. À l'arrière de ce porte-échantillon, on a mis aussi un absorbant acoustique pour éviter les réflexions des ultrasons qui pourraient endommager la sonde si elle revenait trop fort dessus. Et qui n'existe pas dans le traitement du cancer de la prostate. Donc, on essaye toujours de se rapprocher des conditions cliniques. Et c'est ce petit porte-échantillon. Il est hermétiquement fermé avec un ballonnet qui, lui, est transparent aux ultrasons. Et donc, on essaye comme ça de se rapprocher au maximum d'une prostate humaine clinique. Donc, je vais introduire le foie dans la cuve. Donc là, je le fixe à sa barre de support. Donc ensuite, la sonde elle-même, donc c'est une sonde qui est à la fois thérapie et imagerie. Donc on a une partie en forme de cuillère qui nous permet d'avoir la thérapie. Et au milieu, on a une cellule d'imagerie donc qui nous permet de voir à l'endroit où on va faire le traitement ce qui se passe. Donc notamment, si on va créer des bulles, on va pouvoir voir ça en temps réel. La sonde, elle est contenue dans un ballonnet également, dans lequel il y a un liquide qui circule. Ce liquide est refroidi par un groupe froid dans la machine aussi. Et en fait, ce refroidissement est essentiel parce que ça permet de refroidir la sonde pour pas qu'elle surchauffe. Et ça permet aussi, dans le cas clinique, de refroidir le rectum. Donc cette sonde est endorectale, ça j'ai oublié de le préciser. Donc elle est introduite dans le rectum du patient. Et le refroidissement du rectum est important parce que le rectum, c'est très sensible comme tissu. Et si on commence si on fait une ablation du rectum, ça peut être très grave et conduire à des fistules et des problèmes pour le patient. Donc on cherche vraiment à refroidir au maximum le rectum tout en chauffant au maximum la zone qu'on veut traiter, donc la tumeur. Donc là, on va commencer le traitement. Donc il y a tout un tas de vérifications à donner à la machine pour s'assurer que tout va bien. C'est une échographie classique, c'est exactement pareil. On a juste une sonde qui est très courbe, donc on a cette vision en secteur comme ça. Et notre bout de foie, il est là. Et c'est ce qui est un peu plus clair que le reste. Hop. Ici derrière, la ligne un peu plus intense, c'est la surface de notre absorbant. Donc c'est la fin du foie. Et donc nous, on va venir faire notre lésion dans le morceau de foie. Et on va pouvoir comme ça repérer les limites de la prostate, les différentes structures adjacentes, voisines, et aussi du coup l'endroit que le médecin va vouloir traiter. Il va pouvoir donc voir, notamment grâce à la fusion avec l'IRM, où est censée être la tumeur. À ça, il va ajouter des marges pour être sûr de son traitement. Donc, c'est de l'ordre de 9 mm en général, de part et d'autre. Et avec tout ça, il va avoir sa zone ciblée. Ensuite, il va sélectionner la zone qu'il a envie de traiter avec une limite basse et une limite haute. Quand il fait bouger ça, donc on voit que la longueur à traiter varie avec ça. Donc, c'est cette distance-ci. et la machine automatiquement va en déduire un nombre de tranches qu'il va traiter. Le traitement en fait va se dérouler sous forme de traitement point par point. On va traiter un point par un point. Chaque point, enfin un ensemble de points va former une trajectoire et un ensemble de trajectoires va former une tranche. Et tout le volume sera traité avec différentes tranches. Donc c'est comme ça qu'on réalise le traitement. Et une fois qu'il est satisfait de sa zone planifiée, la sonde va se positionner automatiquement au début de la zone à traiter et nous donner l'image correspondante au premier plan à traiter. Donc le foie qu'on utilise ici, c'est un foie de boucherie, donc il n'est pas perfusé, il n'y a pas de vascularisation sanguine, et donc il n'est pas refroidi par ce système de perfusion. Donc on valide, et là il nous demande si on veut commencer à commencer vraiment le traitement. Donc là si on lui dit oui, il nous redemande la confirmation qu'on veut vraiment traiter suivant la planification qu'on a faite. Et une fois qu'on valide, donc là le traitement commence. On a une estimation du temps du traitement, donc 2 minutes ici, donc c'est assez court. Les tirs ont lieu, ouais, ça a commencé. Donc là, on a vraiment la cuillère, donc la sonde de thérapie. Donc on a une image en continu. Et en fait, comme c'est un traitement par ultrason et une imagerie par ultrason, on voit très très bien le traitement. Et ce qu'on arrive à voir aussi en temps réel, en effet, c'est l'apparition de bulles, de cavitations notamment, qui donnent un aspect un peu plus intense, un peu plus blanc sur l'image. En fait, c'est l'apparition de petites bulles qui sont dues au cycle de surpression et de dépression. Et aussi, ça peut être aussi des bulles d'ébullition d'ailleurs, et qui donc nous permettent de voir le traitement en temps réel. En fait, on sait que dans cette zone-là, là où l'intensité augmente, eh ben, on a créé une lésion et qu'on n'a pas besoin de découper du coup pour s'en assurer. Donc là, c'est la fin du traitement. Donc il fait une dernière lésion élémentaire. Une fois que c'est fini, donc il sauvegarde toutes les données du traitement. Il se repositionne, la sonde va se repositionner à sa position de départ. Et on peut éventuellement donc soit refaire une autre nouvelle zone de traitement si on a envie, soit passer donc à cette étape de vérification par l'imagerie de contraste, soit finir le traitement et espérer que tout va bien. Donc là, on va sortir l'échantillon de la cuve. Hop, je vais l'amener dans un petit plateau pour ne pas en mettre partout. Là, je vais sortir le foie. Hop. Donc là, comme on peut le voir, il n'y a pas de dégâts à la surface. Donc on a réussi à épargner la zone qu'on voulait, donc les 4 mm qu'on voulait épargner à la base. Je vais juste mettre ça dans l'évier pour ne pas en mettre partout. Donc là, si vous voulez, donc moi je me suis un peu sali les mains, mais si vous voulez, vous pouvez mettre ce gant et juste tâter la surface. Vous allez sentir. Alors, je ne sais pas si à la radio ça passera bien, mais.
Je suis ravi.
Il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui.
Et donc,
toucher la surface, palper un peu la surface et vous allez sentir une zone un peu plus dure.
Assez chaud là. Bah, si je compare aux extrémités où là c'est assez froid, là cette zone-là, beaucoup plus dure et beaucoup plus chaude.
Ouais, bah la température est montée à peu près vers les 80-100 degrés pendant le traitement, donc c'est encore relativement chaud. Et donc le tissu aussi en chauffant s'est durci, un peu comme quand on cuit un steak. Il a tendance à durcir comme ça et c'est une des propriétés qu'on peut utiliser également pour faire des suivis de traitement comme on fait. Donc ici, je vais ouvrir avec un scalpel. Donc je repère la zone. Je me suis un peu sali les mains déjà. Donc je repère la zone juste par palpation, donc comme un médecin le ferait. Je repère les extrémités de ce que je pense être la lésion. Et je vais découper avec un scalpel la zone qu'on a traitée.
Ah, effectivement, on voit que...
Et donc là, c'est assez facile de repérer la lésion. Donc c'est une zone toute blanchâtre au milieu du foie qui, lui, est plutôt rouge. Et on voit très bien donc, qu'on a les 4 mm ici, qu'on a bien épargné. On a fait la taille de la lésion, donc j'ai pas mesuré pendant le traitement, mais on a la taille de la lésion qui correspond à celle qu'on a voulu faire. Et donc on a réussi un traitement comme ça, à distance, de notre foie.
Jacob. Apolline.
À l'instar des cancers, le son révèle son potentiel pour un autre enjeu de santé publique, les troubles de la conscience.
Jacob.
À Neuro Sainte-Anne à Paris,
on utilise le son pour évaluer le niveau de conscience des patients dans le coma ou épileptique. Musique, ambiance ou voix familière, comme ici, où on diffuse les prénoms des patients dans le coma pour mieux les stimuler. C'est l'objectif du projet Sound for Coma, porté par l'équipe du professeur Tarek Charchar.
Jacob, Emilia, Félix, Jacob.
Alors nous sommes à l'hôpital Sainte-Anne, qui fait partie du groupe, d'un groupe hospitalier qu'on appelle le GHU, Psychiatrie et Neurosciences de Paris, et qui recoupe aussi d'autres services de psychiatrie de la capitale. Et le projet que l'on appelle Sounds for Coma est en fin de compte est une plateforme dit électrophysiologico-acoustique. Alors, acoustique pourquoi ? Parce que c'est deux chambres que l'on a construites, qui sont deux chambres de patients, une en épileptologie et une autre en réanimation, qui ont un environnement sonore maîtrisé, c'est-à-dire le seuil sonore a été diminué, et ils sont équipés d'enceintes pour pouvoir diffuser des sons programmés et de toute nature. Et ces deux chambres sont connectées à un laboratoire qui permet à la fois de maîtriser à distance le son que l'on souhaite diffuser et en retour d'enregistrer les réponses du patient, des réponses qui sont dites physiologiques, c'est par exemple la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fréquence respiratoire, mais aussi les réponses du cerveau qui sont l'électroencéphalogramme. Donc ça, c'est la plateforme.
Marco Lioni, sound designer à Mezzoforte.
En ce moment, ce qui est projeté est ce qu'on appelle du masquage sonore. Donc c'est du son qui est projeté par le haut-parleur dans un espace 3D pour faire en sorte que le silence autour du patient soit plus agréable et donc de réduire la gêne qui est générée par les phénomènes et les événements sonores inattendus à l'hôpital, que ce soit des alarmes, que ce soit du passage, et ainsi de suite. Donc voilà, je lui propose d'aller dans la chambre. Donc là, dans la chambre de réanimation, il y a à la fois, enfin, donc on a équipé deux chambres, la chambre de réanimation et la chambre de neurophysiologie. Les deux sont équipés de plusieurs dizaines de speakers et de haut-parleurs qui sont du coup des enceintes à la fois murales et à la fois principalement au plafond. L'intérêt de cela, c'est d'avoir un point d'écoute qui soit vraiment centré au lit du patient, qui permet aujourd'hui effectivement de simuler dans les chambres acoustiques des espaces acoustiques très maîtrisés. Donc il y a beaucoup d'enceintes, on vient de mettre en marche les amplis, on a ici dans le labo l'ordinateur qui contrôle tout cela. Le but bien évidemment n'est pas d'avoir un système hyper qualitatif juste pour le plaisir, c'est vraiment de simuler des espaces acoustiques réels et les mécanismes qui se mettent en place au niveau neurobiologique, quand effectivement on écoute des phénomènes sonores réels et du coup de permettre aux soignants, aux médecins et aux chercheurs d'observer les mécanismes, le comportement, du coup, les réactions des patients à ce genre d'écoute qui est du coup une écoute qui simule au plus près possible l'écoute naturelle écologique.
L'objectif, c'est d'étudier comment un son, notamment un son à charge émotionnelle, sollicite le cerveau. Il faut comprendre que le son, il peut avoir différentes vertus. Il peut être à la fois exploratoire, il nous permet de tester le cerveau, comment il le perçoit, comment il intègre et comment il y répond. Et puis, il peut aussi avoir des vertus thérapeutiques, apaisantes. On parle d'anxiolyse, il peut peut-être prévenir des syndromes dépressifs, souvent fréquents chez les patients de réanimation. Alors pourquoi l'épilepsie et la réanimation ? Alors pour deux raisons. D'abord parce qu'en réanimation, on est confronté, on prend en charge des patients qui ont des troubles de la conscience, souvent des comas suite à des lésions cérébrales sévères, et se posent la question de savoir quel est leur état de conscience et en fonction de ce qu'on évalue comme état de conscience, quel est leur pronostic, c'est-à-dire vont-ils s'éveiller, vont-ils devenir conscients ou auront-ils d'autres séquelles ? Et c'est vrai que la stimulation sonore est la stimulation la plus facile à employer pour pouvoir tester un niveau de conscience chez un patient.
Moi, j'ai travaillé principalement sur l'évaluation du pronostic neurologique des patients inconscients en soins intensifs, et en particulier ce qui différencie un petit peu de
Sarah Bengamen, réanimatrice en médecine intensive.
Nous, on a des patients qui sont plutôt admis en poste après un arrêt cardiaque réanimé. Et donc, c'est aussi des patients cérébrolésés parce que sur l'arrêt du cœur, il peut y avoir des lésions cérébrales induites par cet arrêt cardiaque. Et donc, on a développé pendant ma thèse de science des différents protocoles avec des sons, des stimulations sonores et de l'enregistrement électroencéphalographique donc au lit du patient en réanimation chez des patients inconscients qu'on a stimulés avec différentes, en tout cas tenté de stimuler avec différentes modalités. Effectivement, l'idée c'est de voir si ces stimulations, ces stimuli à valence émotionnelle génèrent des réponses sur l'électroencéphalogramme qui pourraient avoir une valeur pronostique, essayer de prédire la récupération de ces malades. C'est hyper important parce que les patients sont en réanimation, il faut qu'on puisse évaluer le pronostic qui va guider finalement la plupart de nos thérapeutiques en tant que réanimateur. C'est aussi important pour parler aux familles, pour être au plus près de la réalité de ce qui va se passer, même si prédire, c'est toujours difficile. Et donc, on avait testé pendant mes travaux de thèse de science, et on poursuit ces travaux, différentes stimulations, des sons qui s'approchent, qui s'éloignent, pour voir ce que ça génère sur l'EEG, est-ce qu'on peut prédire la sortie du coma avec ça. Et aussi le prénom du patient prononcé par la voix du proche, parce que on a tous un peu le sentiment que parfois nous on n'observe pas de réponse du patient aux ordres simples, mais la famille qui nous dit moi j'ai vu que il m'a suivi du regard, il m'a serré la main, des réponses comportementales que nous on n'observe pas toujours et qui potentiellement sont générées par la familiarité en fait, tout simplement, qui peut activer des structures dans le cerveau importantes pour la prise de conscience de soi et de son environnement. Et donc, on poursuit tous ces travaux-là avec l'équipe à l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris pour essayer de mieux prédire le pronostic neurologique de ces patients en post-arrêt cardiaque, mais dans d'autres situations également.
Alors du coup, on va avoir deux sortes d'enregistrements en fonction des chambres. Donc dans la chambre acoustique en réanimation, on va avoir donc l'EEG, l'électroencéphalographie de surface. Et dans la chambre acoustique de neurophysiologie, on va avoir l'EEG, mais qui va être enregistré avec des électrodes intracérébrales.
Anaïs Laurence, chercheuse en neurosciences cognitives.
Donc en fait, pendant l'enregistrement, on va enregistrer les canaux cérébraux. Et on va enregistrer aussi à chaque fois ce qu'on appelle des triggers, c'est-à-dire en fait des marqueurs qui montrent à chaque fois qu'il y a un son qui a été entendu, qu'il y a quelque chose qui a été fait ou quelque chose qui a été joué dans la salle. Et ça nous permet de synchroniser l'activité cérébrale avec les sons. Et à partir de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va extraire les informations cérébrales en fonction des sons. Donc on va extraire cette information, on va couper le signal basé sur nos marqueurs. Donc on va avoir par exemple des marqueurs qui vont avoir des chiffres, qui vont nous dire par exemple un tel prénom qui approche, deux le même prénom qui va s'éloigner, des choses comme ça. Et donc nous, on a toutes ces informations-là qu'on va mettre ensemble, on va pouvoir découper nos données et analyser le signal électroencéphalographique en fonction en fait de ce que la personne a entendu. Et donc à partir de là, on peut vraiment on a énormément de façons de regarder le cerveau. La première qu'on utilise souvent, c'est ce qu'on utilise surtout en clinique, c'est les potentiels évoqués. Donc en fait, c'est vraiment l'activité évoquée par le son, ce qui est quelque chose en fait qui nous permet quand même de regarder qu'il y a quand même une réponse à l'écoute du son. Donc il y a quand même un marqueur que le cerveau a entendu du son. Et ensuite, on peut à partir de là expérimenter et avoir des analyses beaucoup plus poussées qui vont du coup de l'analyse justement aussi donc des potentiels évoqués en passant par l'analyse fréquentielle, parce que donc c'est un signal électrique, donc on a du temps, la fréquence, on a une phase, etc. Puis après on peut évidemment faire des modèles prédictifs, on peut augmenter la difficulté pour essayer de comprendre, et la finalité étant de vraiment de pouvoir d'une comprendre si le cerveau a capté des sons, et ensuite s'il y a une dissociation et s'il y a une différenciation entre tel et tel son. Donc en fait, à quel point cette information acoustique a été processée, a été traitée par le cerveau, et voir en fait justement si on peut y trouver des différences et si, in fine, ça peut avoir un effet et aussi une aide à un outil clinique en fait de détection d'activité cérébrale et de fonctionnement cérébral.
Et donc ça, c'est pourquoi une chambre en réanimation. Alors pourquoi une chambre en épilepsie? Pour deux raisons.
parce que dans le service d'épileptologie du professeur Martine Gavaret, on prend en charge des patients qui ont des épilepsies réfractaires et pour lesquels, pour pouvoir éventuellement opérer de leur épilepsie, on pose des électrodes dans le cerveau pour déterminer où se trouve le foyer épileptique. Donc voilà, et aussi l'épilepsie, c'est une maladie complexe qui peut aussi s'associer à des troubles de la conscience, par exemple ce qu'on appelle des absences, qui sont des états de conscience très particuliers, et peut-être aussi qu'on pourra un peu comprendre comment ces états d'absence surviennent et s'ils peuvent être provoqués ou au contraire traités par des simulations sonores. Donc c'est le son exploratoire, c'est le son thérapeutique. C'est aussi tous les développements technologiques qui va avec. Et ça convoque deux champs majeurs qui sont le champ de l'acoustique et de la physique du son et du système. Et puis les champs neuroscientifiques, le système auditif, l'analyse de signaux complexes, c'est-à-dire des réponses cérébrales que l'on capte à partir d'un électroencéphalogramme. Et c'est aussi un champ excessivement complexe de mathématiques, en fin de compte. Voilà. Oui,
fermeture de la porte avant.
Oui, je vous présente au patient. Si tu peux lui demander, ouais.
Étage 3.
La neurologue Martine Gavaret, chef du service, nous conduit vers l'autre chambre acoustique où un patient épileptique est suivi dans le cadre du projet.
Alors, on est dans votre service,
non ? Oui, alors ici on est dans l'unité pluridisciplinaire et on va vers les chambres d'épileptologie. Donc il y a quatre chambres d'épileptologie qui sont reliées à un même laboratoire de surveillance. Et puis la chambre acoustique en fait est l'une de ces quatre chambres et c'est celle qu'on va voir là maintenant, qui est la plus proche du poste de surveillance.
Bonjour.
Bonjour, donc vous avez le docteur Landré, qui est et puis Sarah et Lydia, nos deux infirmières techniciennes EEG. Et bonjour monsieur. Et donc le patient avec son bandage sur la tête, il a été opéré lundi matin. Et donc les neurochirurgiens ont positionné des électrodes intracérébrales selon un schéma qui a été défini en fait par la clinique, par la problématique posée par le patient. Et donc les électrodes intracérébrales sont comme des fils qui font 0,8 mm de diamètre, qui sont introduites par les neurochirurgiens au bloc opératoire sous anesthésie générale. C'est un système très précautionneux, bien sûr, pour mettre en route ces électrodes. C'est des opérations qui sont assistées d'un robot. Et il y a un calcul en particulier pour positionner ces électrodes dans ce que les neurochirurgiens appellent des vides vasculaires, c'est-à-dire des régions cérébrales où il n'y a bien sûr pas d'artère, pas d'artériole, pas de veine, pas de vénule. Donc les patients ont au préalable réaliser une artériographie et il y a une fusion de ces données d'artériographie, l'IRM cérébral et puis les desiderata des épileptologues par rapport aux positions des électrodes, mais qui sont positionnées à cette position que si le parcours est identifié comme sûr. Donc le patient, il est enregistré nuit et jour. Et puis le but est que surviennent des crises d'épilepsie habituelles. On étudie aussi les petites anomalies électriques qu'ils peuvent avoir entre les crises. Et puis il y a des stimulations. Donc le docteur Landré était justement là en train de réaliser où les stimulations, il y a un peu deux buts. Soit c'est pour éliciter une crise, enfin favoriser une crise, et ce sera très important pour la définition du réseau pathologique, ou soit pour tester en fait la fonction. Ça peut être dans la région motrice entraîner une secousse, ça peut être dans la région auditive entraîner une hallucination auditive, ça peut être dans la région du toucher entraîner des fourmillements dans telle région. C'est très important de déterminer le recouvrement potentiel qu'il y a entre une zone très importante sur le plan fonctionnel et le réseau à l'origine des crises, pour déterminer s'ils vont pouvoir être opérés ou pas. Les stimulations, là c'est des stimulations électriques, c'est-à-dire qu'on va délivrer des activités, délivrer un courant entre des plots contigus d'électrodes. Mais également, on peut faire des stimulations donc audio. Et en fait, quand on est dans la région auditive, ben, Elisabeth, elle voit très bien comme ça les réponses évoquées.
Je suis d'accord. On va juste allumer
Nous rentrons dans la chambre du jeune patient monitoré pour démarrer un test. Sur sa musique préférée, de l'autre côté de la vitre, l'équipe analyse les signaux de son activité cérébrale.
Merci de nous accueillir. On va pas vous enregistrer. On va juste apparemment prendre le son.
En intracérébral, on est plutôt sur environ 200 canaux par patient, donc une dizaine d'électrodes implantées qui chacune ont c'est des électrodes, enfin c'est des shafts en fait, des aiguilles qui comportent chacune plusieurs contacts, donc plusieurs électrodes. Donc on enregistre 200 endroits cérébraux à peu près, et ça nous permet vraiment d'avoir un signal d'une qualité fréquentielle et temporelle à peu près inégalée. En intracérébral, on peut pas rêver mieux en fait pour analyser le cerveau. Et du coup, c'est ça qu'on utilise, et on va pouvoir vraiment regarder des données comme par exemple ce qu'on appelle la fréquence haute, donc la haute fréquence, l'activité en haute fréquence, HFA en anglais, et qui est vraiment un marqueur d'une activité, en fait, d'un groupe de neurones qui va être activé en même temps dans le but de faire une tâche cognitive. Et ça, c'est des choses qu'on peut regarder en intracérébral. Donc l'intracérébral nous permet vraiment d'avoir une vision très claire des régions impliquées, même des régions profondes impliquées dans l'écoute du son. Et tout ça, on peut essayer de l'appliquer, de trouver en fait des similitudes avec l'EEG de surface, et essayer de comprendre en fait justement le niveau de traitement des patients en réanimation.
T'es la plus belle des étoiles, parmi les autres je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi, il me reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est vocal.
Merci à Iseline Père, Jean-François Aubry, Cyril Lafont, David Melodolima, Thomas Payen, Tarek Charchar, Bertrand Herman, Martine Gavaret, Sarah Bengamen, Anaïs Lurance, Marco Liuni et Jean-Julien Couturier. Mixage Pierre-Henri, attaché d'émission Marivonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin, Science en son, médecine, les ondes qui soignent, un documentaire de Céline Nozen et Guillaume Baldi.
Ça fait clic, 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 pom, pom, pom. Je m'accompagne, petit gueule, ma chérie, t'es trop séduisante.